France Culture.
François Calame, bonjour.
Bonjour Caroline Brouet.
Hier, vous nous avez parlé des cultures cachées et de votre travail d'ethnologue auprès des populations picardes, de la route du textile notamment. Je voudrais qu'on revienne à vos premières amours, les amours du bois et les amours de la charpenterie, qui vous ont été rendues possibles, je crois, par une rencontre marquante. On avait eu une première rencontre marquante en 1981 avec un bûcheron croate. Une autre rencontre marquante au début des années 90 avec des artisans roumains qui ont ensuite conduit à la création d'une association que vous avez appelée Charpentiers sans frontières. Racontez-nous cette genèse.
À la chute du mur de Berlin, les pays civilisés ont pensé qu'ils avaient un rôle éducatif à jouer auprès des malheureux qui étaient du mauvais côté du mur. Donc la France a découvert des vieilles amitiés avec la Roumanie, et réciproquement, et c'était des amitiés sincères. Moi, je faisais partie des bagages, et on est allé en Roumanie pour venir apprendre aux Roumains à travailler. Et personnellement, je me suis rendu compte que c'était plutôt les Roumains qui nous apprenaient à travailler dans le domaine qui m'intéressait, qui était en l'occurrence celui de l'architecture en bois. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer, de fréquenter des régions extraordinaires, des Carpates, et notamment proche de la frontière ukrainienne, des régions comme la Moldavie-Bukovine, le Maramourech, et je me suis rendu compte que dans ces régions-là, où le pouvoir de Ceausescu n'avait pas réussi à s'introduire à fond, des pratiques ancestrales avaient pu se maintenir, et notamment un usage de la forêt qui était encore extrêmement prégnant. Et j'ai pu découvrir des villages entiers où les paysans charpentiers continuaient de construire leurs maisons à la main avec du bois qu'ils prélevaient illégalement dans les forêts. C'était les survivances de droits d'usage qui étaient encore très mal contrôlées, mais qui pratiquaient donc encore intégralement les constructions à la main. Et on a été très impressionnés lors d'un premier chantier que j'ai organisé en 1992 avec différents partenaires européens. Donc le concept était déjà là, des charpentiers sans frontières. J'avais constitué une équipe et chacun apportait sa manière de voir, son art de faire. Les Français, les charpentiers français étaient très forts dans l'art du trait de charpente, l'art de tracer des géométries complexes. Et les Roumains nous ont complètement bluffés dans leur pratique de l'usage de l'outillage à main et dans la connaissance du bois vert, du bois frais que l'on peut façonner, choisir et façonner pour construire sa maison.
Nous, on est très fort dans l'art du trait de charpente, et c'est ce qu'on verra dans l'épisode 4, hein, ensemble, François Calame. Mais je crois qu'on est aussi très fort, et c'est d'ailleurs une force qu'on partage avec les Anglais, dans la technique du piquage au plomb.
Ah, mais vous savez tout. Le piquage au plomb est une technique qui permet de tracer des bois qui vont être assemblés. Vous imaginez deux morceaux de bois qui vont se pénétrer, et notamment avec le principe du tenon et de la mortaise, c'est-à-dire un pôle mâle et un pôle femelle. Et ces deux bois qui vont se pénétrer, il faut que ça se passe de la manière la plus rigoureuse possible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des gros jours, des grosses imperfections à la jonction. Et lorsque les bois ont des profils imparfait par définition, eh bien on va utiliser un fil à plomb pour permettre, avec une technique que je ne décrirai pas mais qui est très technique, qui permet de tracer très précisément les assemblages pour que les pièces viennent respectivement s'emboîter l'une dans l'autre en tenant compte des défauts réciproques de chaque pièce. Et cette technique, elle est très intéressante parce qu'elle apparaît en France et en Angleterre à la fin du XIIe siècle, lorsque le tenon mortaise se généralise dans l'art de la construction. Et c'est ce que l'on observe à Notre-Dame de Paris. 50 ans avant, les charpentiers n'utilisaient pas cette technique. Il y a une véritable révolution technologique qui s'opère et qu'on observe en particulier à Notre-Dame de Paris.
Je citais cette technique propre aux Anglais et aux Français, pas complètement par hasard non plus, François Calam, parce que je suppose que c'est aussi l'idée de charpentier sur la frontière. Chaque pays, chaque culture a ses techniques propres, ses connaissances, son savoir-faire particulier, et que votre idée, c'était justement une sorte d'échange des savoirs.
Voilà, je dirais, pour donner une image, que chaque communauté, chaque groupe humain, chaque société, chaque pays, éventuellement chaque tranche d'âge, possède une portion du savoir-faire de l'humanité. Et le but de notre rencontre, et ça peut être un but plus général, espérons-le, est de faire participer, d'échanger. Voilà, c'est un échange généreux que nous employons à faire. Et dans le domaine du bois, ça fonctionne à merveille parce que le bois a ce côté magique qu'il suscite de l'empathie, il suscite une générosité qu'on a pu constater depuis plus de 30 ans lors de nos échanges sur les chantiers.
Donc, Charpentiers sans frontières, c'est une association, mais c'est plus qu'une association. C'est un mouvement, c'est un collectif, c'est un réseau.
Voilà, vous venez d'employer les mots qu'il faut. C'est une association, mais dans laquelle personne n'est membre attitré, personne ne paye de cotisation qui lui donnerait un droit moral ou un devoir ou une obligation particulière. On est libre comme l'air, on se réunit comme les oiseaux d'Hitchcock quand on a envie de se réunir sur un fil électrique, mais pour réaliser un objet, pour réaliser un travail. Et ce travail, il est à la fois matériel, c'est ce que nous allons construire, mais ce travail, il est aussi intellectuel, il est psychologique, il est affectif. Ce sont des rencontres et elles fructifient ensuite. C'est-à-dire que les gens continuent de se voir après les rencontres, ils continuent de travailler ensemble. Aujourd'hui, il y a un système économique qui se met en place de plus en plus et qui est en particulier lié à nos rencontres, c'est que beaucoup d'entre les membres, femmes ou hommes, hein, charpentières et charpentiers, ce sont souvent des artisans seuls, solitaires, qui ont un statut d'auto-entrepreneur. Et lorsqu'ils ont un chantier, ils ou elles ont des chantiers plus importants, eh bien, ils se regroupent avec ce réseau d'interconnaissances pour pouvoir faire face ensemble et s'associer ponctuellement sur tel ou tel chantier en fonction de la proximité, des dates, des calendriers des uns et des autres. C'est-à-dire que l'idée même de la mobilité dans les équipes, dans la composition des équipes, dans la mobilité géographique est un élément qui est nouveau, qui fait partie de la sociabilité et de l'organisation professionnelle de nos rencontres.
Ça veut dire qu'il peut y avoir des chantiers, non seulement en France, mais en Roumanie, puisque vous l'évoquiez, aux États-Unis, en Chine.
Eh bien, l'une des dernières nouvelles là, que je vous livre aujourd'hui, c'est que dans le prolongement du travail qui a été fait à Notre-Dame de Paris, les équipes du Danemark qui sont en charge de la reconstruction de la vieille bourse de Copenhague qui a brûlé il y a quelques mois, ça a été un drame patrimonial énorme pour les Danois. Cet édifice du XVIIe siècle qui comportait notamment une flèche torse absolument exceptionnelle en Europe, qui a brûlé complètement, et donc les Danois ont été convaincus par le travail qui a été conduit à Notre-Dame de Paris, et donc ce sont des membres de notre groupe, dont plusieurs ont travaillé au chantier de Notre-Dame de Paris, qui vont se regrouper avec des charpentiers danois qui sont très bons également, et travailler à la hache avec les méthodes que nous pratiquons donc dans le courant de cette année. Je pense que dans 2 mois, ce chantier va commencer à se mettre en place.
Vous disiez, François Calam, que c'était à la hache que ça se faisait, et un peu plus haut dans cet épisode, vous parliez du travail à la main, en disant justement que les Français, c'était une des constatations que vous avez faites dans les premiers rendez-vous, là, les Français avaient perdu l'usage des outils à main. Et vous disiez que les Roumains, eux, n'avaient pas perdu cet usage. Et c'est l'un des apprentissages que les charpentiers français ont fait grâce aux Roumains, c'est de réapprendre l'usage de ces outils à main. Est-ce que aujourd'hui, on est en 2025, ça va mieux ? Est-ce qu'il y a à nouveau un engouement pour la hache, pour pouvoir couper du bois correctement ? Je crois qu'on parle beaucoup de la doloire et de la bread bale. J'ai travaillé les outils qui sont les plus utilisés, qui sont des formes de hache très utilisées, c'est ça ?
Oui, oui, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs manières de faire, de travailler. Sur les échanges sur le long terme, ce qui est intéressant, c'est que nous, en 92, quand nous sommes allés en Roumanie, donc nous avons, pour la plupart d'entre nous, découvert ces techniques de travail et d'efficacité du travail à la main par les Roumains. Et lorsque, il y a 4 ans, j'ai réorganisé un nouveau chantier en Roumanie, c'était le contraire. Les Roumains avaient perdu la technique du travail à la hache, et ce sont les charpentiers français et britanniques qui leur ont réappris ces gestes.
Ah, c'est joli.
Ce n'était pas au même endroit, ce n'était pas les mêmes personnes, bien sûr, entre 1992 et 2016. Voilà, c'était plus les mêmes, mais les savoir-faire avaient disparu, parce qu'entre-temps, la mécanisation était intervenue. Quand en 92, j'étais en Moldavie-Bukovine, les tronçonneuses russes, les droujba, n'avaient pas encore fait apparition. Les Roumains ne travaillaient pas à la tronçonneuse, ils abattaient à la main et ils écarissaient à la main. Quelques années plus tard, en très peu de temps, le marché a été inondé par la mécanisation, principalement russe, mais d'un peu partout. Donc tous ces mouvements interviennent et les chaînes opératoires sont extrêmement fragile. Lorsqu'un maillon cède, c'est toute la chaîne opératoire qui évolue ou qui disparaît. Étrangement, le recours aux techniques à la main, la redécouverte des techniques manuelles, quitte à les modifier, quitte à métisser, je crois beaucoup au métissage à la fois culturel mais technologique, peut permettre d'apporter des solutions, de trouver, d'inventer chaque jour des solutions nouvelles et de s'adapter aux besoins.
Il y a eu plusieurs chantiers marquants, hein. On peut peut-être citer le premier atelier de charpentier à la main en Normandie en 2002. Il y avait 10 pays. Et alors là, c'est drôle parce qu'en lisant le livre qui a été fait à partir de cet atelier, j'ai vu que chacun était concentré sur un problème spécifique. J'ai trouvé ça très drôle. Là, par exemple, la Pologne était concentrée sur la pathologie des anciennes églises de bois décorées, la Turquie sur les modes de sauvegarde des centres anciens en pan de bois. Donc chacun avait son tropisme, son obsession et faisait partager cette obsession aux autres. Racontez-nous un peu comment ça se passait.
Alors, les modes de représentation sont très importants. Effectivement, on a beaucoup à apprendre en se frottant aux autres, en empruntant leurs lunettes pour regarder les problèmes, ce qui a été très précieux pour les Français par rapport à leur propre patrimoine, par rapport à leur propre pratique, c'est de recevoir des amis étrangers, des amis bienveillants, qui venaient regarder notre patrimoine et nous mettre le doigt sur ce qu'on ne savait pas faire, sur ce qu'on négligeait, sur les modes d'intervention qui n'étaient pas appropriés. On avait beaucoup à apprendre, des grandes leçons d'humilité, et ça nous a fait énormément progresser. On s'est rendu compte, après la visite de ces amis étrangers, qu'on redécouvrait notre patrimoine. Et ça nous a permis de sauver notamment des édifices qui étaient négligés. On ne les regardait plus. On ne regarde pas ce qu'on a au coin de la rue. C'est lorsque votre voisin, votre cousine ou un ami étranger vient vous dire « Mais c'est extraordinaire ce que tu as au coin de ta rue. Ah bon ?» Et là, le regard change. Donc on le vérifie à la fois sur les pratiques, les gestes, les techniques. Et ça marche évidemment dans les deux sens. Nous, les Français, nous avons beaucoup enseigné le trait de charpente aux Anglo-Saxons, aux Scandinaves, qui n'ont pas cette pratique-là, mais qui le découvrent et qui l'admirent. On admire ce que les autres savent faire mieux que nous, même si ce n'est pas nos pratiques. On a une fascination dans ce que l'autre sait faire. Et ça, c'est un apport, une générosité sur laquelle il faut vraiment compter dans la dynamique de nos mouvements.
Alors nous, on a appris à regarder, grâce à ces amis étrangers, les édifices qu'on avait à côté qu'on ne regardait plus. C'est le regard, donc c'est l'œil, mais c'est aussi la main, vous le disiez, le geste, François Calame. De la même façon que j'ai appris en souriant que chaque pays, chaque culture était concentrée sur un problème spécifique, j'ai noté, parce que j'ai appris chaque mot en vous lisant, hein, que les charpentiers français, alors je vais le dire tel que je l'ai noté, ont été initiés à l'écarissage des grumes à la Dauloire par leurs collègues finlandais, lituaniens et anglais lors de ce fameux atelier de Normandie en 2002. Alors, maintenant, je sais ce que ça veut dire, l'écarissage, les grumes et la Dauloire, mais je vais vous laisser expliquer les trois mots pour nos auditeurs et nos auditrices qui ne le sauraient pas encore.
Alors, le principe presque notre philosophie, en tout cas, c'est notre plaisir et aussi notre façon de faire, c'est de choisir les arbres avec lesquels nous allons travailler. C'est très important aujourd'hui de réintroduire le rapport direct entre la charpentière ou le charpentier et son matériau d'œuvre. On choisit l'arbre avec lequel on va dialoguer et on choisit l'arbre avec lequel les habitants vont apprendre à vivre dans les années et les siècles qui vont suivre. Donc ça, c'est une démarche que nous avons réinstaurée. Et notamment à Notre-Dame de Paris, on aura l'occasion d'y revenir. Mais on choisit son arbre.
Je peux faire juste une petite parenthèse. Dans ce que vous dites, est-ce qu'il y a des bois, des arbres qui se prêtent plus que d'autres à la charpente, voilà, en tous les cas à la charpenterie? Est-ce que tous les bois sont utilisables?
Oui. Alors, dans ma pratique et à l'examen de ce que j'ai pu voir à l'étranger dans différents pays, j'en arrive presque à un paradoxe, c'est qu'on peut construire avec n'importe quel bois. Alors, quand je dis ça, c'est un paradoxe et énormément de professionnels et de charpentiers vont sauter en l'air en disant « Qui sait ce zozo, de quoi il nous parle ?» Il y a bien sûr des bois qui se prêtent davantage, plus facilement, qui ont des propriétés mécaniques, des bois qui résistent mieux en extérieur, certains bois résistent mal et ont tendance à pourrir en extérieur. Mais j'ai pu constater, notamment dans des régions pauvres en bois, par exemple la Picardie, que les Picards d'autrefois, ils utilisaient tous les bois qu'ils avaient sous la main.
Même le hêtre, que les charpentiers n'aiment pas.
Oui, le hêtre, c'est comme le lapin dans un bateau. Un charpentier, il devient fou quand vous lui parlez de mettre du hêtre dans. Il y a un interdit. Le hêtre, c'est un bois de pot-à-colle, c'est un bois de menuisier. Le charpentier, qui se croit plus noble, évidemment à tort, qu'un menuisier, méprise le hêtre. Et vous dira qu'il faut construire en chêne ou en sapin. Il y a comme ça des catégories mentales. C'est un acte culturel. La construction est un acte mental qui met en jeu des catégories qui ne sont pas que technologiques. Mais vous pouvez, ma réponse qui n'engage que moi, c'est que vous pouvez pratiquement construire avec n'importe quel bois.
Voilà, je referme la parenthèse, on revient à l'écarissage des grumes à la Dauloire qui donnerait presque son titre à cet épisode.
Vous avez choisi votre arbre parce que vous dialoguez avec lui. Vous l'abattez, vous le faites abattre, vous pouvez l'abattre à la main ou à la tronçonneuse, ça n'a pas d'incidence pour nous. Il faut l'abattre dans une période bien déterminée, lorsque la sève est basse. On l'abat en sève basse, c'est-à-dire depuis la fin septembre jusqu'au courant du mois de mars. Et vous respectez le calendrier lunaire. On abat, selon les traditions ancestrales, on abat dans le dernier quartier de la lune, et en particulier en lune noire, quand il n'y a pas de lune. Ça, c'est ce que la tradition nous a enseigné. Il y a des débats nombreux sur le sujet, on ne les ouvre peut-être pas maintenant, mais c'est intéressant aussi à étudier. Nous le faisons, nous le respectons, Il n'y a pas mort d'homme si vous abattez pas dans le dernier quartier de la Lune. Vous pourrez avoir une maison qui ne va pas tomber par terre dans les 6 mois. Mais c'est un usage que personnellement, j'incite à pratiquer. Et à partir de ce moment-là, vous avez un arbre qui a un pourcentage d'humidité très fort, malgré tout. Même si vous l'avez abattu en sève basse, il a un taux qui est en général supérieur à 50% d'humidité. Et on le travaille vert. C'est la pratique du travail du bois vert. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez faire l'écarissage. Écarir, ça veut dire le transformer une grume en une pièce de section carrée ou rectangulaire, en conservant...
La grume étant le tronc de l'arbre. Hein.
C'est le tronc de l'arbre, qui peut être droit ou cintré, qui peut présenter des défauts. Et là aussi, c'est une caractéristique de notre travail, c'est que nous nous satisfaisons d'une quantité importante de bois que l'industrie rejette. L'industrie, elle ne veut voir qu'une seule tête, elle ne veut voir que du bois droit. Le reste, ça part au triturage en bois énergie, c'est perdu. Il y a un gaspillage de la ressource qui est scandaleux dans le système industriel et que nous, à notre échelle, nous essayons donc de contrecarrer en utilisant des cintres, en sachant reconnaître les formes que la nature nous a données. Ce n'est pas un défaut, c'est un don que la nature nous fait lorsqu'elle nous fait des... Alors, on ne peut pas utiliser toutes les formes, il y a des formes qu'on a beau dire, on a beau faire, il y a des formes qu'on sera obligé de rejeter. Chaque pièce doit trouver son emplacement. La maison, c'est un corps, c'est le corps humain. Il y a une parenté symbolique entre le squelette de la maison et les éléments végétaux qui le constituent. Et dans ce corps humain, chaque sous-partie doit être choisie avec beaucoup de soin. Et le fait de travailler des bois courbes ou des bois qui ont des formes très spécifiques peut être véritablement un atout, notamment sur le plan esthétique, sur le plan symbolique. Et nous y travaillons avec beaucoup de soin.
Donc il y a le choix des bois, le choix des formes, en fonction de la réalisation à faire, et donc le choix des outils, troisième terme, la doloire.
Et voilà. Et une fois que vous avez choisi votre grume, qui donc, par définition, au départ, a encore son écorce, on le travaille vert, parce que c'est quand il est vert qu'on peut précisément faire l'écarissage à la doloire. La doloire, c'est un mot qui vient du latin dolare. Dolare, ça veut dire écarir. Ça veut dire transformer une surface qui est donc arrondie, même si vous avez enlevé l'écorce superficielle, la forme de la grume va donner donc une forme ronde, et vous transformez cette forme ronde en une forme plate. Vous l'aplatissez et vous lui donnez des angles droits qui, ça a plusieurs fonctions. Ça favorise les assemblages, les fameux assemblages à tenons mortaises ou autres. Et puis, ça vous permet également d'éliminer l'aubier, qui est une partie superficielle du bois, qui n'est pas encore du bois parfait, qui n'est pas encore imprégné complètement de lignine, c'est-à-dire que cette partie va être fragilisée ensuite par rapport aux attaques des insectes et éventuellement des champignons. Donc il faut enlever l'aubier et ne garder en principe que ce qu'on appelle le cœur du bois, le duramen, qui est la partie durable, qui explique que les sarcophages des pharaons sont encore aujourd'hui en parfait état, parce qu'on a su enlever les parties superficielles du bois qui auraient été attaquées par les insectes.
J'entends dans ce que vous dites, François Calam, qu'il y a un certain nombre de règles, de contraintes, mais aussi des valeurs. Charpentier sans frontières, c'est donc une association, un mouvement, un réseau, on a dit, mais c'est aussi un certain nombre de valeurs que vous défendez.
Elles ne sont pas explicites, elles ne sont pas verbalisées. Ce sont des valeurs de respect de la matière. On a même certaines écoles, par exemple, ça ne vous étonnera pas si je cite le cas des charpentiers japonais. Un charpentier japonais vous expliquera que quand vous façonnez un assemblage, L'assemblage est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est-à-dire ce que personne ne verra jamais doit être parfaitement réalisé. Il y a des formes d'assemblage également qu'on pratique et que j'ai pu observer dans des charpentes très anciennes, qui fait que quand vous avez un assemblage, c'est toujours, j'en reviens à ces assemblages à tenons mortaises, on a vu que lorsque les bois ont des contours imparfaits, quelle que soit la façon dont ils ont été façonnés et carrés à la doloire, mais il peut conserver toujours des endroits où il manque du bois. Et lorsqu'il manque du bois d'un côté, le bois complémentaire doit compenser la partie manquante en rajoutant la partie qui viendra exactement s'emboîter dans sa copine. Et on a un dicton de charpentier qui dit « Comme il a le menton, on lui fera la barbe. » Alors, le menton, c'est une partie du bois, et la barbe, c'est ce qui viendra compléter la partie manquante. Alors, il y a toujours des justifications. En France, on est dans un pays dit cartésien, où on invoque principalement l'argument rationnel avant d'invoquer les systèmes de représentation. Mais très souvent, on se rend compte que derrière ce paravent rationnel et cartésien se cachent des représentations qui sont d'ordre symbolique.
Oui, il y a même des croyances ou des superstitions, parce que, par exemple, qui deviennent des règles. Par exemple, l'idée que selon laquelle une pièce de bois doit être montée dans le sens de sa pousse naturelle et certainement pas dans le sens inverse de sa pousse naturelle, on peut considérer que c'est une règle, maintenant, de charpenterie, je crois. On peut considérer que ça vient d'une forme de superstition, non ?
C'est lié à l'idée qu'un arbre est habité par une puissance vivante et qu'elle a besoin de continuer à garder les pieds sur terre, et que si vous contrariez le sens dans lequel elle a poussé, les esprits qui habitent
on met l'arbre debout et pas la tête à l'envers. Quoi.
Oui, oui.
Ouais, c'est ça. Vous, ce qui est sûr, François Calame, c'est que contrairement au Picard, vous n'êtes pas taiseux. Et même peut-être que le charpentier, contrairement au tailleur de pierre réputé taiseux, ne l'est pas. Que vous parlez, je ne sais pas s'il y a un langage de la technique, puisque vous êtes forcément retrouvé avec 10 ou 15 langues différentes lors de ces chantiers phénoménaux que vous avez réalisés face à des langages, des langues différentes, mais vous avez réussi à vous parler, donc peut-être qu'il y a un langage de la technique particulière, mais nous avons terminé cet épisode et nous nous retrouverons donc pour l'épisode suivant pour parler notamment du travail du trait de charpente, et nous parlerons avant de ce trait de charpente de vos réalisations importantes, avant de parler du chantier de restauration de Notre-Dame de Paris, de vos réalisations importantes et de la dimension peut-être même d'insertion dans le travail du charpentier sans frontières. À demain.
Merci beaucoup.
À suivre l'épisode 4, l'art français du trait de charpente. C'était À Voix Nue avec François Calame, réalisation Guillaume Baldi, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.